le monde changer.
Il est 7h. Et si ces violons étaient bientôt désaccordés ? Séisme au sommet de l'Europe du foot, les 12 des plus grands clubs annoncent qu'ils vont faire sécession, oui, et lancer leur propre compétition fermée, boycottant ainsi la Ligue des Champions, colère de très nombreux acteurs ce matin. Et pour vous aussi dans l'édito sport à 7h20, Virginie Fulpin.
Et le football est mort hier soir, en tout cas celui qu'on connaît. La Super Ligue européenne n'est pas un séisme dans le foot, c'est la négation même de ce sport.
Lui promet plus de bleu sur le terrain d'ici 2022. Emmanuel Macron joue la carte sécuritaire à un an de la présidentielle. Et esquisse ce qui est peut-être un nouveau slogan dans une longue interview au Figaro. Dans ce journal, Europe 1 à Gibraltar, premier territoire européen libéré du Covid. Et puis l'homme parviendra-t-il à faire voler un appareil sur une autre planète que la Terre ? La NASA tente l'exploit avec un hélicoptère sur Mars. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Daniel Fortin, suivi du regard international de Vincent Hervouet.
Ouais, le conseiller du président algérien sur les questions mémorielles accuse la France d'avoir répandu l'analphabétisme dans son pays. Il faut être deux pour se réconcilier et Alger n'a visiblement pas très envie.
Et puis avant 7h30, nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le football européen est donc en pleine guerre de sécession. 12 des plus grands clubs du continent, le Real Madrid, le Barça, Manchester United, la Juventus Turin, annoncent qu'ils prennent le large. C'est l'information de la nuit. Bonjour Lénaïque Monnier.
Bonjour.
Ils vont créer leur Super League, leur propre compétition fermée et boycotter la Ligue des Champions.
Voilà, en gros, le gratin du foot européen va lancer une sorte de compétition club VIP en circuit fermé, comme cela existe déjà en NBA aux États-Unis, une façon de faire à nouveau rentrer des sous, car les 12 clubs fondateurs se chargeront de commercialiser les droits TV et marketing de la Super League, tout en gérant de A à Z la compétition. C'est une déclaration de guerre à la très puissante mais vieillissante UEFA, qui se réunit en plus aujourd'hui en comité exécutif, justement pour dépoussiérer sa compétition phare, la Ligue des Champions, peut-être un peu trop tard.
Alors plus de réactions depuis l'officialisation de cette annonce de Super League à 0h03 cette nuit. L'UEFA, notamment l'instance du foot européen, condamne évidemment fermement.
Oui, avec des actes forts, l'UEFA bannira tous les clubs dissidents, mais pas seulement, leurs joueurs en sélection nationale également, comme à l'Euro par exemple, preuve que la menace est prise au sérieux. L'UEFA, qui d'ailleurs n'a pas manqué de remercier les loyalistes comme le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain, qui sont restés dans son giron. Et puis effectivement, même son de cloche politique, puisque l'Élysée, via un communiqué, s'est également réjoui de voir les clubs français ne pas participer à cette compétition qui n'a pas encore le moindre calendrier.
Merci Lénaïque Monnier, on imagine effectivement que ça va encore batailler ferme entre les clubs, les gouvernements donc, et les fédérations.
L'actualité politique à la une également ce matin et cette interview fleuve d'Emmanuel Macron dans le journal Le Figaro.
Et un thème, la sécurité à un an de la présidentielle. Campagne lancée avec ce possible slogan, le droit à la vie paisible pour lequel se bat, dit-il, le chef de l'État qui déclare la guerre au trafic de drogue, défend son bilan en matière de création de postes de policiers avant un déplacement sur le terrain aujourd'hui à Montpellier. Hélène Terzian.
Chaque Français verra plus de bleu sur le terrain en 2022 qu'en 2017. Dans les colonnes du Figaro, Emmanuel Macron l'assure, l'objectif de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires fixés au début du quinquennat sera tenu. Plus de 6 200 ont déjà été recrutés, ils seront 2 000 cette année. Le président défend son bilan, plus de moyens aux forces de l'ordre pour mieux quadriller le territoire. Tous ont le droit de prétendre à une vie calme où qu'ils habitent, insiste le chef de l'État. Je me bats pour le droit à la vie paisible. Pour cela, il fait de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la mère des batailles. Ne laisser aucun répit aux trafiquants, les harceler, une stratégie qu'il estime payante. Chaque jour, nous fermons un point de deal, se réjouit-il. Le président cible aussi le petit deal, la consommation. Dans le Figaro, le chef de l'État dit d'ailleurs vouloir lancer un grand débat national sur la consommation de drogue et ses effets délétères. On se roule un joint dans son salon et à la fin, dit-il, on alimente la plus importante des sources d'insécurité.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1.
Et avant la Je vous rappelle au passage que Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, sera l'invité de la matinale à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. avant la présidentielle, il y a déjà les régionales qui se profilent. On poursuit notre Tour de France sur Europe 1. Après notre sondage en région Provence-Alpes-Côte d'Azur la semaine dernière, notre étude IFOP pour la Normandie ce matin.
Qui donne là aussi un second tour entre la majorité sortante et le Rassemblement National. Sauf qu'en Normandie, la liste de centre-droit d'Hervé Morin conserve une certaine avance, 31% face au RN Nicolas Bay à 26%. Le décryptage de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
Par rapport à 2015, Hervé Morin bénéficie d'un bilan régional jugé très satisfaisant avec le sentiment qu'il met l'identité normande au cœur de son action. Ce qui est très intéressant, hein, ces élections marquent la fin d'un processus, d'un cycle où on a vu le fait régional s'imposer. Il y a quelques années, quand on demandait aux Français quel est l'échelon territorial de trop, ils citaient parfois la région ou le département. Ils ne citent plus jamais la région. La période du Covid a amplifié cette tendance où les Français ont mis en regard un État central plutôt dysfonctionnant, qui manquait de souplesse et d'efficacité, et des régions efficaces, proches des gens. Et on voit cette logique de municipalisation, ce qui veut dire que les motivations de vote aux élections municipales, un projet, un bilan, une incarnation, deviennent maintenant par homothétie des motivations de vote très fortes pour les élections régionales du 20 et 27 juin.
Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, il répondait à Marion Gauthier.
7h06 sur Europe 1. Sur le front de l'épidémie, on approche des 13 millions de Français ayant reçu une première injection. C'est un cinquième de la population.
Bien loin du score de Gibraltar, où on vous emmène ce matin. Alors certes, le volume de population n'est pas le même, mais l'enclave britannique en Espagne est le premier territoire d'Europe à avoir réussi à éradiquer le virus. Et on a choisi de vous y emmener ce matin avec ce reportage d'Henri de Laguérie. Les 34 000 habitants adultes de l'enclave sont vaccinés et toutes les restrictions, ça y est, sont levées.
Ça va très bien, c'est génial de retrouver la vie normale, je pensais que ça n'arriverait plus.
Et pourtant Nadine a bien retrouvé sa vie d'avant en bord de mer, sous un soleil éclatant, elle boit un cocktail en terrasse avec une amie. Et toutes les tables sont remplies, les masques ont disparu, le gel hydroalcoolique aussi. Comme tous les plus de 16 ans de Gibraltar, cette quadragénaire est vaccinée.
On a beaucoup de chance, on ne s'était pas vu depuis des mois avec mon amie Claire. C'est chouette de retourner au bureau, de voir des gens, des amis, bref, de socialiser.
Et hier, le public a fait son retour au stade, le couvre-feu a été levé, il n'y a plus un seul malade Covid à l'hôpital et cela fait plus d'un mois que le Rocher n'a pas enregistré de nouveaux cas. Majid vit en Andalousie mais il passe la frontière tous les jours car il travaille ici dans une entreprise de jeux en ligne. Comme les 15 000 frontaliers, ce Français de 33 ans a pu se faire vacciner.
C'est incroyable, on fait la queue 2 minutes, on va dans une salle d'attente, on reçoit la dose. En 15 minutes, j'étais vraiment rentré et sorti avec la première dose.
Comment vous sentez ?
Ça fait vraiment du bien.
Grâce à cette immunité collective, Gibraltar savoure donc sa liberté retrouvée et peut envoyer un message au reste du monde.
Je souhaite à tout le monde de pouvoir retrouver comme nous une vie normale. J'espère que tout le monde sera vite vacciné.
Bonjour Henri de Laguérie.
Bonjour Théo.
On vous retrouve en direct de Gibraltar, Henri. On a entendu cet air de libération. Alors comment est-ce que cette petite nation a réussi à vaincre le virus ?
Alors Mathieu, déjà il y a la discipline collective, le virus a tué près de 100 personnes, ici 13% de la population a été contaminée, les confinements ont été très stricts mais ils ont été respectés. Et puis il y a cette opération Freedom, Liberté, une campagne de vaccination éclair coordonnée avec Londres, 12 avions de la Royal Air Force ont acheminé les vaccins Pfizer et AstraZeneca, une opération suivie en direct par les habitants qui se mettaient à leur fenêtre pour voir les appareils atterrir, les 3 centres de vaccination ont ouvert leurs portes 7 jours sur 7. Résultat aujourd'hui, cette immunité collective commence à faire tache d'huile puisque le sud de l'Andalousie, frontalier avec Gibraltar, voit l'épidémie reculer.
Merci Henri de Laguérie, envoyé spécial d'Europe 1 à Gibraltar.
Alors que chez nous, les contrôles se durcissent à partir d'aujourd'hui dans les aéroports français. Quarantaine de 10 jours obligatoire pour tous les voyageurs arrivant du Brésil, d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud, mais aussi de Guyane. Au volet judiciaire, la mère de la petite Mia, toujours en garde à vue en Suisse ce matin en attendant son extradition. 5 hommes ont été mis en examen pour l'enlèvement de la fillette, retrouvée saine et sauve hier dans un squat près de Neuchâtel. La fillette va pouvoir être remise à sa grand-mère qui en avait la garde dans son village des Poulières dans les Vosges, où tous ceux qui la connaissent sont soulagés ce matin après ces 5 jours de recherche et d'angoisse. Arthur Elmbaché.
En toute discrétion, la grand-mère de Mia a quitté sa maison ici aux Poulières hier après-midi avec une petite valise pour aller vivre pleinement et à l'abri des regards les retrouvailles avec la fillette de 8 ans, la grand-mère qui est au cœur des pensées des habitants du village.
La première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est vraiment la mamie. Ça, elle va pouvoir souffler un peu, refaire des câlins à sa petite fille. faire mettre un peu de baume au cœur. Mais ouais, je suis soulagée pour la petite aussi, quoi. Enfin, ça a dû être horrible d'être promenée justement jusqu'en Suisse, à pied, la frontière. Enfin, ça a dû être éprouvant. Quel souvenir elle va garder de son enfance, cette petite-là.
Bouga, Jeannot, Pitchoun, Roméo, le Corbeau, voilà donc les surnoms que se donnent les membres de ce groupe, ceux qui ont mis en œuvre cet enlèvement. Opération de type militaire, a dit Francis Perrin, le procureur de Nancy.
Bouga a acheté des talkie-walkie et des téléphones portables en vue de cette expédition. Il y a également du petit matériel. Pitchoun va donner donc à Jeannot un postiche. Puis ils vont se procurer également de l'équipement de camping. Tente.
La mère de Mia est ce matin toujours en garde à vue en Suisse en attendant dans une semaine ou deux son extradition et sa mise en examen. Les Poulières, Arthur Elmbaché, Europe 1.
À Marseille, ce sont des voisins encombrants que les riverains aimeraient bien voir disparaître. Les navires de croisière sont immobilisés avec la crise, mais ils polluent plus que jamais.
Oui, pas de touristes à bord, mais il faut bien faire fonctionner les machines, l'électricité. Résultat, les groupes électrogènes tournent à plein régime et ils enfument tout le quartier de l'Estac où s'est rendu Stéphane Frangy.
Un panorama avec des géants des mers hackés, ce spectacle scandalise les habitants du quartier comme Patrick Borg.
Il y a des odeurs, ça se sent. Les navires qui fument et qui tournent en permanence 24 heures sur 24 avec leur groupe électrogène. Il y en a eu jusqu'à 17. Là, il y en a un qui est vraiment très gros, qu'on voit fumer noir d'ailleurs. Là, c'est concret, on se rend bien compte.
Au sein de l'association Cap au Nord, plusieurs ont installé des capteurs de particules fines dans leur jardin. C'est le cas de Guillaume Félisa qui étudie les relevés sur son ordinateur.
Lorsqu'on a 15 jours où on est exposé en moyenne à 30 microgrammes, ça veut dire que nous sommes exposés à des particules fines, trois fois plus des recommandations de l'OMS.
La solution, comme il le réclame, serait de raccorder tous les bateaux à l'électricité à quai. Ce qui est prévu, mais il faudra s'armer de patience, selon Dominique Robin, président de l'Observatoire de la qualité de l'air Atmosud.
Ces paquebots sont assez importants, ils ont demandé des puissances électriques vraiment très fortes. Et donc, on a dans le programme Escale Zéro Fumée, porté par la région, l'ambition de raccorder ces paquebots. Mais oui, les actions sont en route.
Et cette généralisation des branchements électriques est attendue à l'horizon 2025. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
En bref, à l'étranger, cette réunion en urgence des ministres européens des Affaires étrangères à propos d'Alexeï Navalny, l'opposant russe, risque l'arrêt cardiaque d'une minute à l'autre, selon ses médecins, en raison de sa grève de la faim entamée il y a près de 3 semaines. Washington promet déjà qu'il y aura des conséquences si le Kremlin le laisse mourir en prison.
Enfin, 118 ans après les frères Wright, cette question. L'être humain parviendra-t-il aujourd'hui à faire voler pour la première fois un appareil à moteur sur une autre planète?
C'est l'ambition de la NASA et de son hélicoptère Ingenuity qui va tenter de décoller aujourd'hui. Il est arrivé sur la planète rouge avec le rover Perseverance et il va donc tenter d'accomplir ce qui n'est rien de moins qu'une prouesse technique lors d'Autriche.
Oui, l'atmosphère de Mars est 100 fois moins dense que sur Terre et l'air extrêmement léger. Pour cette raison, il est difficile de décoller dans l'air martien. Il fallait donc construire un hélicoptère le plus léger possible pour qu'il puisse voler. Il pèse un peu moins de 2 kilos et les pales de l'hélicoptère vont tourner extrêmement vite pour compenser la force de gravité qui va l'attirer vers le bas. L'hélicoptère devrait s'élever à 5 mètres de haut et faire à ce moment-là quelques figures tournées sur lui-même. Les Américains veulent montrer qu'il est possible de voler sur Mars. Et si cela fonctionne, cela pourrait être utile à l'avenir, explique Gabriel Pont, ingénieur au CNES, le Centre National d'Études Spatiales.
Après, on peut imaginer des vols motorisés à la surface de Mars pour faire des mesures de la composition du sol, par exemple, mais à des endroits très éloignés par rapport aux endroits qui nous sont accessibles avec les rovers aujourd'hui.
Le pilotage de cet hélicoptère ne se fera pas en temps réel depuis la Terre, mais le vol se fera en autonomie, puisqu'il faut plusieurs minutes pour recevoir ou envoyer des signaux de la Terre vers Mars.
Et on suivra avec vous ce décollage prévu potentiellement dès 9h30, heure française. Merci à vous, l'heure d'Autriche.
Oui, 9h30, heure française.
Heure de Mars, je ne connais pas.
Je ne connais pas les fuseaux horaires martiens non plus. Merci beaucoup, Théo Manval. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
COVAX. COVAX, c'est l'initiative de l'OMS pour un accès équitable à la vaccination à travers le monde. L'enjeu, c'est de vacciner massivement et d'éviter que le virus continue à circuler activement, y compris dans les pays les plus pauvres. Mais avec quels moyens? Combien de vaccins redistribués? 16% de la population mondiale aujourd'hui concentre plus de la moitié des doses injectées. Et ce matin, je reçois Chrysoula Zakharopoulou. C'est la coprésidente de COVAX. C'est l'invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Daniel Fortin. Bonjour Daniel.
Bonjour Mathieu.
De quoi va-t-on parler?
Alors, je vais vous parler de la dette des États qui explose littéralement dans le monde.
Et ce sera avant le regard international de Vincent Hervouet. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h16 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Daniel Fortin de la rédaction des Échos. Bonjour Daniel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
62 000 milliards de dollars. C'est le montant de la dette des États les plus riches dans le monde. C'est un chiffre ahurissant, jamais atteint. Et surtout, rien ne semble vouloir arrêter cette course folle.
Oui, ça donne le vertige. Et le plus spectaculaire, c'est de voir que cette dette mondiale a littéralement explosé en peu d'années. En 25 ans, elle a été multipliée par 4 pour les 35 pays les plus riches du monde. Alors, pourquoi cette progression stratosphérique ? Eh bien, tout simplement parce que le monde vient de connaître deux grandes crises. Celle des subprimes en 2007-2008 et puis celle du Covid que nous connaissons encore. Et à chaque fois, la réponse a été la même. On émet des emprunts à outrance pour éviter que l'économie s'écroule.
Et malgré cette explosion, on entend de plus en plus d'économistes dire aujourd'hui que la dette n'est plus un problème.
Oui, ça peut paraître paradoxal, mais le raisonnement se tient. Il s'explique par une raison simple, c'est que s'endetter aujourd'hui pour un État, comme d'ailleurs pour un particulier, eh bien ça ne coûte pas grand-chose. Les taux d'intérêt sont tombés à des niveaux historiquement bas. Si l'on prend l'exemple de la France, eh bien sa dette a augmenté de 274% en 25 ans. Mais la charge de cette dette, c'est-à-dire les intérêts qu'elle doit payer chaque année, lui coûte moins cher qu'à l'époque. Et ce que disent certains économistes, en effet, particulièrement optimistes, c'est qu'on peut continuer à s'endetter, on ne risque pas grand-chose.
Mais est-ce que vous y croyez, vous, à cette prévision ?
Alors, on a envie d'y croire, et c'est ça qui est le plus dangereux. Dire que la dette n'est plus un problème, ça reste quand même un pari sur l'avenir. Ce pari, c'est celui de penser que les taux ne remonteront plus jamais. Or, rien n'est aussi peu certain que ce pronostic. Au contraire, on va bientôt sortir de la crise du Covid. Il va y avoir une forte reprise de l'économie mondiale, dopée notamment par des plans de relance gigantesques, comme celui de Joe Biden aux États-Unis. Ça va mettre sous tension les appareils de production, avec un fort risque de faire déraper les prix dans la foulée. Ce sont les taux qui risquent de remonter, et si c'est le cas, eh bien beaucoup d'États, à commencer par la France d'ailleurs, ne pourront plus faire face à leur charge d'emprunt. Et ça, c'est un scénario que personne n'a vraiment envie de connaître.
Merci Daniel Fortin, rédacteur en chef au journal Les Échos. Il est 7h18 sur Europe 1. Le regard international, c'est avec Vincent Hervouet, bien sûr. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Dans le Figaro, ce matin, Emmanuel Macron insiste sur sa volonté de réconcilier les mémoires avec l'Algérie. Selon lui, c'est partagé côté algérien, notamment par le président Tebboune.
Eh bien, si c'est partagé par le président Tebboune, c'est en secret. En revanche, son premier ministre ne prend pas de gants pour claquer la porte au nez de Jean Castex dimanche dernier, au prétexte que le premier ministre ne restait pas assez longtemps à Alger et n'emmenait pas assez de ministres dans ses bagages. Son ministre du Travail, qui déclare que la France est l'ennemi traditionnel et éternel, reste ministre du Travail. Et enfin, son conseiller pour les questions mémorielles, l'alter ego de Benjamin Stora, est intarissable pour accabler la France. C'est sa spécialité d'historien, son gagne-pain. Abdelhamid Chiki dirige les archives nationales et ce n'est pas rien dans un régime qui fonde sa légitimité sur la guerre d'indépendance qu'il rejoue depuis 60 ans en se victimisant.
Selon le conseiller, la France aurait éliminé les personnes qui lisaient et écrivaient en Algérie et s'en est suivi l'ère du pillage.
Alors on se demande de quoi il parle, mais on sait de quoi il ne parle pas. L'élimination des personnes, ce ne sont pas les attentats ciblés du FLN contre les instituteurs. L'ère du pillage, ce n'est pas la gabegie de l'économie planifiée au temps du socialisme ou le détournement de la manne pétrolière par la nomenclatura. Non, Abdelhamid Chiki parle du pillage pour dénoncer l'époque coloniale. Ce sont les contemporains de Louis-Philippe qui auraient répandu l'analphabétisme et pas les profs importés du Moyen-Orient après l'indépendance pour enseigner en arabe classique à des enfants qui n'y comprenaient rien car ils parlaient l'arabe littéral ou la langue berbère, les enfants qu'il fallait enseigner dans la langue du Coran au nom du panarabisme et de l'islam conquérant.
C'est une affaire d'historien ?
C'est une affaire politique. L'historien officiel incrimine le colonisateur, mais la France n'est pas responsable des échecs de l'éducation en Algérie depuis 60 ans. Le refus de voir la réalité permet d'esquiver les problèmes insolubles. Emmanuel Macron, lui aussi, est dans le déni. Il tient au dossier algérien pour se hisser à la hauteur de l'histoire. Il s'imagine qu'il a un interlocuteur à Alger. Il obtient l'effet inverse. Il suscite la surenchère. Emmanuel Macron prétend se réconcilier, mais Alger rit.
Merci Vincent Hervouet, le regard international. Il est 7h21 sur Europe 1. Tout de suite l'édito sport de Virginie Fulpin. Juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Se faire pigeonner, c'est peut-être ce qui nous arrive de temps en temps. Et d'où ça vient cette expression ?
La réponse dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
Mathieu Béliard.
7h22 sur Europe 1. L'édito sport de Virginie Fulpin qui, ce matin, est particulièrement attendu. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu. Tous les matins.
Mais il faut bien dire que l'Europe du foot est en émoi. 12 des plus grands clubs ont officialisé hier soir la création d'une Super Ligue européenne pour concurrencer la Ligue des Champions. Pour vous, le football arrive au bout de la logique du non-sens.
Séisme, bombe, guerre, sécession, voilà les mots qui qualifient l'acte de naissance de cette Super Ligue européenne si mal nommée. C'est vrai que c'est exactement ce dont on avait besoin en ce moment. Cette Ligue fermée a déjà une notion d'Europe rabougrie avec ses clubs venus des seules Angleterre, Italie et Espagne. Trois autres devraient rejoindre ces 12 fraudeurs plus avides d'argent que de sensations sportives. Et chaque année, 5 autres club serait généreusement invité à la table des puissants, comme à un dîner de cons sur tapis vert en fait. Je vous en prie, enlevez ce vernis craquelé de bonne conscience, restez juste entre vous et partagez-vous ce gros gâteau indigeste. On n'en veut pas. Vous y avez enlevé tous les ingrédients qui rendent le football si succulent. Les incertitudes, les surprises possibles, le mérite sportif, la rareté des affiches de gala, le droit de rêver finalement. On dirait une galette des rois sans fèves, votre ligue aussi fermée que vos esprits étroits. On a bien compris que ça n'est pas le football qui vous intéresse, c'est ce qu'il rapporte. À l'heure où tant de clubs amateurs luttent pour leur survie, à l'heure où les supporters s'accrochent à leur passion sans pouvoir aller au stade, vous leur plantez un couteau dans le dos en leur montrant bien que leurs problèmes vous indiffèrent. C'est pas une sécession, c'est la négation même du football, cette ligue fermée.
Alors cette Super Ligue n'est pas encore en place, hein. D'ailleurs il y a quand même beaucoup d'opposition.
C'est là où ça devient presque drôle. L'UEFA qualifie de cynique le projet des 12 grands clubs. Devoir se raccrocher à l'instance européenne qui joue les parangons de vertu face à l'avidité des riches frondeurs, j'étais pas prête. On parle bien de l'UEFA qui doit nous présenter aujourd'hui sa réforme de la Ligue des Champions, à peu près aussi guidée par l'intérêt sportif que cette Ligue fermée au nid, soyons honnêtes. Ce qui gêne l'UEFA, c'est pas de nier le football, c'est d'avoir perdu la main, c'est de se faire couper l'herbe sous le pied par plus cynique qu'elle. Ça fait des années qu'elle cherche à remodeler cette Ligue des Champions pour la rendre plus rentable, des années qu'elle drague les supporters américains ou asiatiques pour mieux mondialiser son influence, des années qu'on nous vend les duels Lionel Messi-Cristiano Ronaldo comme l'essence même du football, à tel point qu'on devrait même pas être étonné de voir ce projet de ligue fermée arrivé à terme. On a juste préparé le terrain. Et finalement, c'est peut-être bien que la menace soit si pressante aujourd'hui. On avait sans doute besoin d'aller jusque-là pour réagir.
Moi, je sais où je vais aller aujourd'hui. Sur le compte Twitter de Virginie Fulpin, pour voir tous les commentaires en dessous. Ce débat, il est vif. C'est un vrai débat dans le monde du football.
Et
c'est
ça va
un
durer.
Vrai choc. Non, mais c'est un vrai choc ce qui s'est passé hier soir. Si vous n'aimez pas spécialement le football, il faut bien comprendre que c'est vraiment très, très gros ce qui s'est passé.
Et puis on
hier.
Attend aussi ce que va faire l'UEFA aujourd'hui, qui est réuni et qui doit présenter son projet de réforme.
Je parlais de Twitter, vous aviez relevé le compte Twitter des Cahiers du football.
Oui, le conducteur qui disait qu'en gros, en un week-end, l'Angleterre avait enterré le prince Philippe et le football.
C'est dur, mais j'avais pas meilleure transition pour dire bonjour à Stéphane Bern qui est avec nous.
Prince Philippe, Stéphane Bern, c'est là. Bonjour Mathieu,
bonjour à Stéphane. Tous.
Mathieu, j'imagine, vous êtes un homme qui vérifie deux fois les informations que l'on vous soumet. Vous n'accordez pas facilement votre confiance. Bref, n'est pas né celui qui va vous pigeonner. Se faire pigeonner, quel est le rapport entre se faire avoir et le pigeon?
En plus, quand on se fait avoir, on dit être le pigeon. Dans une affaire, on dit aussi être le dindon de la farce. Bon, ça, c'est une autre histoire.
Je reconnais bien là l'amateur de cuisine rôtie que vous êtes. Mais revenons à nos pigeons. Au XVIe siècle, les gens de la haute étaient friands d'un oiseau qu'on appelait la huppe. Doté d'une crête très fournie en plumes, il fallait, avant de consommer cet oiseau, les lui retirer, ses plumes. Il fallait le déhupper. Cela donnera plus tard le verbe duper.
C'est vrai?
Oui.
Ça vient du duper.
De plus en plus rare, l'oiseau a été bien vite remplacé par le pigeon, qui était beaucoup plus facile à attraper. Le volatile était adoré au Moyen-Âge, aussi bien comme moyen de communication d'ailleurs, que cuisiné, bien cuit, bien salé. La fiente de pigeon était d'ailleurs un très bon engrais pour le potager. On appelait ça de la colombine. Mais d'où vient l'expression, je vous fais languir, se faire pigeonner?
S'il vous
bien,
plaît.
Quand un seigneur avait un pigeonnier, cela voulait dire qu'il était riche. Il existait même une règle. La quantité de pigeons que l'on avait devait être proportionnelle aux terres que l'on possédait. Et quand arrivait un mariage, il était monnaie courante que les seigneurs faisaient des boulins supplémentaires, comprenaient des trous avec des niches pour les pigeons dans les pigeonniers, pour faire croire qu'il en possédait plus qu'il n'en avait en réalité. Le père de la future mariée se faisait alors pigeonner et devenait, pour vous faire plaisir Mathieu, le dindon de la farce.
Ah, on revient à la cuisine rôtie et à faire.
Vous parlez de la Super Ligue en fait aussi.
Et c'est pour demander maintenant qu'il roucoule.
Stéphane Bern, on vous retrouve à 16h pour Historiquement Vôtre.
Oui, on
réunit Ötzi, l'homme des glaces retrouvé dans les Alpes 53 siècles après sa disparition, le tueur en série Richard Kuklinski, dit Iceman, qui congelait ses victimes, et Vladimir Poutine. Alors, vous demandez leur point commun. De glaçants hommes de glace. Sauf le dernier, parce que nous, on veut pas d'histoire.
Mais Ötzi, c'est fantastique. C'est une histoire, c'est pour Christophe Ondelat, hein, l'histoire de Ötzi, cet homme des glaces, 53 siècles.
Oui.
Il y a une vraie enquête, c'est phénoménal. Écoutez historiquement votre de 16h à 18h tout à l'heure, Mathieu Noël et Stéphane Bern. 7h28, Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo.
Alors, si je suis optimiste, je dis que c'est un temps doux, sympa, avec quelques nuages et pas mal de soleil. Si je le suis un petit peu moins, je dis il est doux, sympa, mais si les nuages pourraient nous apporter quand même un petit peu de pluie, même parfois des orages. Ce sera le cas sur le nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté. Et puis un temps assez agité quand même hein, sur les Alpes, notamment sur le massif alpin en lui-même, avec là aussi des orages et de chutes de neige à partir de 1500 mètres. Partout ailleurs, on peut dire que le ciel sera souvent dégagé. Alors là, on pourra roucouler tranquillement, comme disait Stéphane. On pourra aller se promener dans les champs et roucouler tranquillos. Mais les températures, l'avantage, c'est qu'elles seront quand même très douces, hein, comme la douceur de votre belle. Entre 15 et 20 degrés, ce seront les températures de l'après-midi.
Ça donne quoi, roucouler tranquillos, Laurent Cabrol?
Attendez, j'ai montré à ma fiancée.
Laurent Cabrol, la météo, merci beaucoup, cher Laurent. Il est 7h29 sur Europe 1. Sophie Echen s'installe avec nous. Bonjour Sophie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On écoute Le Monde changer, un nouveau journal, presque 7h30.
Dans les services de réanimation, on est engorgé par des personnes qui arrivent avec forte obésité ou obésité et surpoids, qui sont de plus en plus jeunes.
L'inquiétude des personnes de moins de 50 ans en surpoids, considérées comme à risque face au Covid, ce sont pourtant les grandes oubliées de la vaccination. Dans ce journal, on vous expliquera pourquoi la mère de Mia a choisi de se cacher avec sa fille dans un squat en Suisse. À un an de la présidentielle, Emmanuel Macron joue la carte de la sécurité. Déplacement à Montpellier aujourd'hui et grande interview dans le Figaro avec une priorité, la lutte contre le trafic de drogue. À 2 mois des élections régionales, le casse-tête des maires pour organiser les scrutins. Et puis le succès inattendu d'un livre de développement personnel un peu particulier. Rien à lire à l'intérieur, c'est à vous de le remplir.
Juste après ce journal, La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chamerois. Chrysoula Zakharopoulou, c'est la coprésidente de COVAX, le dispositif d'achat de vaccins pour les pays les plus pauvres. C'est le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. L'édito politique de Catherine Ney.
Oui, pour Emmanuel Macron, la mère des batailles contre l'insécurité, c'est la lutte contre la drogue.
Et puis je vous rappelle que Gabriel Attal sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 ce matin sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h30.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La campagne de vaccination contre le Covid avance. Près de 13 millions de Français ont reçu une première injection. C'est presque 20% de la population totale. Désormais, on le sait, toutes les personnes de plus de 60 ans peuvent recevoir une dose. Même chose pour les plus de 50 ans qui ont des comorbidités. L'obésité en fait partie. Mais comment faire pour les personnes de moins de 50 ans qui en souffrent?
Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
Alors pour elles, rien n'est encore prévu. Pourtant, elles sont tout aussi vulnérables face au Covid.
Oui, il y a environ 3,5 millions de Français de moins de 50 ans qui souffrent d'obésité. C'est le cas d'Alina Constantin, 45 ans. Depuis des mois, elle sort très peu de chez elle pour ne pas attraper le virus. Elle a essayé de se faire prescrire le vaccin auprès de son médecin traitant, mais rien à faire. Et aujourd'hui, elle ne comprend pas pourquoi les personnes obèses ne sont pas prioritaires dans la campagne de vaccination.
Dans les services de réanimation, on est engorgé par des personnes qui arrivent avec forte obésité ou obésité et surpoids, qui sont de plus en plus jeunes. Donc la réalité, elle est là. Elle fait peur et puis c'est pas normal. On n'est pas des citoyens de deuxième classe.
Certaines personnes obèses de moins de 50 ans sont même obligées de ruser pour se faire vacciner. Une incohérence que souligne Agnès Morin, cofondatrice de la Ligue contre l'obésité.
Il y a des inégalités sur le territoire. Tenez-vous bien que ce week-end, l'ARS Grand Est et le préfet ont demandé d'ouvrir un centre de vaccination dédié aux patients souffrant d'obésité à partir de 18 ans. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, lorsqu'on habite à Strasbourg, on peut se faire vacciner si on a 20 ans et pas ailleurs sur le territoire.
Elle réclame d'urgence la vaccination pour toutes les personnes obèses sans critères d'âge et avance un chiffre pour insister sur l'urgence de la situation. Près de 40 000 personnes souffrant d'obésité sont mortes du Covid depuis le début de la crise.
Les précisions de Victor Dolande.
Enfin, le dénouement dans l'affaire Mia. La petite fille a été retrouvée saine et sauve avec sa mère dans un squat en Suisse.
Dans la commune de Sainte-Croix, 5 jours après sa disparition, un squat géré par une communauté autonome. Alors Nicolas Feldman, qu'est-ce qui a pu faire choisir cet endroit à la mère de Mia ?
Eh bien, avant tout, la discrétion qu'il offre. Pour le collectif qui définit cette usine désaffectée comme une ZAB, une zone à bâtir, ce qui est sacré, c'est ce côté refuge. Refuge loin de la société de consommation, décroissance, rejet de toute forme d'autorité. Toutes ces valeurs sont partagées par la mère de Mia. Mais c'est aussi et surtout un lieu ouvert à tous, comme le raconte ce proche du collectif.
La philosophie de l'état d'esprit, c'est que ce genre de projet est ouvert. Toute personne est la bienvenue qui souhaite prendre du recul, y séjourner un moment. Et dans ce contexte-là, je ne vois pas comment il aurait été possible qu'il refuse l'accueil à une personne qui est là avec son enfant.
Alors la mère de Mia a-t-elle pu bénéficier de complicité dans le collectif? Cette femme qui connaît bien ses membres en doute.
Ce ne sont pas des gens qui sont du genre à demander les papiers aux personnes qui passent. Ce sont des gens très responsables. Je ne peux pas imaginer qu'ils aient pu faire quelque chose de répressible. De n'importe quelle façon.
Contactés hier, les responsables du collectif n'ont pas répondu, mais certains cités dans la presse locale l'affirment. Vivant loin des médias, ils ignoraient que Mia et sa mère étaient recherchés.
Nicolas Feldman, 5 hommes ont été mis en examen dans cette affaire. 4 d'entre eux sont derrière les barreaux.
Emmanuel Macron est attendu à Montpellier aujourd'hui pour défendre sa politique de sécurité du quotidien.
À un an de la présidentielle, le chef de l'État qui a livré un long entretien dans le journal Le Figaro ce matin, il annonce un grand débat national sur la consommation de drogue. Pour accélérer la lutte contre le trafic de stupéfiants. Pour le secrétaire général du syndicat des commissaires de police, David Le Bars, il faut encore aller plus loin que la fermeture des points de deal.
Il y a des efforts qui sont faits. Il y a eu la mise en place de quartiers de reconquête républicaine, c'est bien. Il y a également des opérations sur les stupéfiants, des opérations du quotidien, du harcèlement. Il faut effectivement harceler les dealers. Mais il faut aussi regarder le trafic de stupéfiants dans sa globalité. Il y a sans doute des résultats meilleurs à attendre avec des gros dossiers internationaux. Vous savez, on sait quand on est policier d'où vient la drogue. Et est-ce qu'on est capable de se satisfaire de ne saisir que quelques pourcentages de ce qui rentre à travers les frontières? Et surtout, sur le sujet financier, je pense qu'on peut faire encore des efforts bien plus importants. On est largement en mesure d'augmenter notre force de frappe pour taper au portefeuille. Vous savez, on dit souvent qu'Al Capone est tombé avec l'argent, il va falloir faire tomber aussi les trafiquants sur des dossiers financiers.
Voilà, David Le Bars, secrétaire général du syndicat des commissaires de police. À noter qu'Emmanuel Macron promet aussi de tenir son objectif de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires avant la fin de son quinquennat.
Cette interview d'Emmanuel Macron, le thème de la sécurité et ce grand débat qu'il veut sur la drogue, nous allons en parler avec Catherine Nel, édito politique, juste avant 8h. Les élections régionales et départementales auront lieu dans 2 mois, les 20 et 27 juin. Mais d'ici là, l'organisation des scrutins promet d'être compliquée.
Et entre le contexte sanitaire et le manque récurrent de bénévoles, les maires n'ont que quelques semaines pour préparer ces élections. Et l'objectif, Damien Mestre, c'est de trouver des assesseurs.
Oui, car en plus, cette fois-ci, des assesseurs, il en faudra 2 fois plus que d'habitude. C'est un double scrutin régional et départemental. Pour une ville comme L'Union, 11 000 habitants près de Toulouse, cela fait 120 bénévoles à trouver. Et ce n'est pas gagné, explique le maire d'Hiver Gauche, Marc Perret.
En temps normal, c'est pas quelque chose qui est forcément très aisé. Là, en plus, s'il y a des restrictions qui s'appliquent, on a un double problème à traiter.
Et des restrictions, il y en a. Les assesseurs doivent être vaccinés ou bien avoir un test négatif réalisé moins de 48 heures avant le scrutin. Cela pourrait donc virer au casse-tête dans certaines communes pour trouver les bonnes personnes. D'autant plus que certains habitués des bureaux de vote ont déjà fait part de leur refus de participer à cette élection. C'est le cas dans la commune de Vire, explique son maire LREM Marc-André Sabater.
J'ai même un élu notamment qui me dit à partir du moment où on m'oblige à me faire vacciner, je ne viendrai pas. Il faut se préparer à trouver d'autres personnes pour remplacer ceux qui viennent d'habitude et qui ne viendraient pas là.
Il a donc déjà lancé sa campagne de recrutement pour éviter d'utiliser une solution de dernier recours, la réquisition des employés municipaux.
Damien Mestre, et je vous rappelle notre sondage Europe 1, IFOP et La Tribune, la Normandie, le président sortant Hervé Morin est bien parti pour se succéder à lui-même. Il devancerait nettement le Rassemblement National de 5 points au premier tour.
À l'étranger, Washington avertit Moscou qu'il y aurait des conséquences si Alexei Navalny mourait. L'opposant numéro 1 au pouvoir russe est en grève de la faim dans son pénitencier. Son état de santé se serait nettement dégradé selon son entourage.
Et puis, connaissez-vous Burn After Writing, ce livre phénomène qui explose tous les records de vente en ce moment?
Livre publié en 2014 dans l'indifférence générale, ou presque, mais qui cartonne depuis 2019, depuis qu'une influenceuse a déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle l'adorait. Et ce livre, il a une petite particularité, en fait, il n'y a rien à lire dedans. C'est vous qui écrivez. Les explications de Nicolas Caro.
Quel est le premier mot que j'utilise pour me décrire? À quoi ai-je pensé avant de m'endormir? Quel est mon plus grand secret? À quand remonte ma dernière première fois? Voilà le genre de questions que l'on trouve en ouvrant Burn After Writing, le livre d'une graphiste, Sharon Jones, qui se situe entre le journal intime et le livre de développement personnel. C'est une sorte de catharsis à destination des adolescents adeptes des réseaux sociaux et qui passent leur temps donc à se montrer sous leur meilleur jour. Dans ce livre, il faut jurer de n'écrire que la vérité, rien que la vérité. Toute la vérité, il s'agit de s'évaluer, s'entretenir avec soi en toute honnêteté pour que le lecteur, je cite, « avance dans la découverte de lui-même ». D'où le titre « Burn After Writing », brûlé après avoir écrit. Dès sa publication en France aux éditions Contredire, le livre s'est classé dans les meilleures ventes, toutes catégories confondues, grâce au relais des réseaux sociaux, grâce à l'époque sans doute aussi, et au culte de soi-même.
Nicolas Carreau. Et puis peut-être un exploit tout à l'heure. Pour la première fois, un petit hélicoptère va tenter de voler sur Mars pendant une quarantaine de secondes. Un défi de taille car l'air martien est bien moins dense que l'air terrien.
Fascinant. Décollage prévu vers 9h30 heure française.
On le suivra.
Je me disais Théo Manval tout à l'heure. Merci beaucoup Sophie Echen. Il est 7h38 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Emmanuel Macron dans le Figaro ce matin, et ce n'est pas pour parler Covid. Le président de la République donne une grande interview sur la sécurité enjeu de la prochaine présidentielle. Sur ce sujet, 8h15, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal au micro de Sonia Mabrouk. Le président veut un grand débat national sur la drogue, la mère de toutes les batailles. À 7h50, l'édito politique, c'est avec Catherine Ney sur ce point. Dans un instant, nous parlons de COVAX, le dispositif qui doit permettre aux pays les plus pauvres d'accéder à la vaccination. Chrysoula Zakharopoulou est coprésidente de COVAX et c'est mon invité dans le tête-à-tête Europe Matin. Tout de suite, la touche âme, Bertrand Chameroy.
Bonjour Mathieu, bonjour ce matin, Bertrand. Je vous parle d'un homme qui m'agace, mais qui m'agace. Heureusement, il quitte la Terre dans 3 jours.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h41 sur Europe 1, l'heure de la touche âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Alors c'est un Français, 2 Américains et 1 Japonais qui sont dans l'espace. Et ouais, je sais, on dirait le début d'une histoire drôle, mais ça n'en est pas une. J-3 avant le départ de l'homme le plus énervant de France. Jeudi, Thomas Pesquet quittera la Terre pour rejoindre la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Franchement, c'est Français qui fuient le confinement, ça me dégoûte. Le type se barre à 400 km de la Terre, 400 bornes. Je suis à 2 doigts de le dénoncer à Didier Lallement. Non mais on peut se le dire, Thomas Pesquet est hyper énervant. Physique de beau gosse du lycée dans les films américains, il est jeune, le plus jeune de la mission, ingénieur, pilote, judoka, il parle 6 langues. Quand nous on fait des selfies floues devant une quiche Lorraine ratée, lui nous bombarde de photos dans l'espace. Et regardez, je suis en apesanteur, hashtag no filter. Et ça va Calogero, ça va. Il est poli, il est sympa, tout le monde l'aime, il a pas une casserole, c'est insupportable franchement. Et comme si ça suffisait pas, il nous crache son bonheur à la gueule. Dans Paris Match, il a expliqué que dans l'espace, la priorité, et je le cite, d'aller au bout de la mission. Le reste n'existe pas, ni les SMS, ni le téléphone, ni le rendez-vous avec le plombier. Oh le rêve. Vous imaginez, 6 mois peinard, sans personne pour t'emmerder, sans nouvelles polémiques chaque matin, sans couvre-feu et surtout sans conférence de Jean Castex. Mais quel pillé ! Il va avoir une meilleure vie que la nôtre. Vous avez vu ce qu'il va manger ? Des plats préparés par François Adamski, meilleur ouvrier de France et Bocuse d'Or, et par Thierry Marx. J'ai le menu qui a été publié par Paris Match. Petit épeautre croquant et crémeux, céleri fondant et truffe du Périgord, suivi d'un bœuf bourguignon, poitrine fermière fumée, champignons et petits oignons glacés, et pour terminer, crêpes Suzette au Grand Marnier. Pendant ce temps, nous, on sera comme des cons à 19h avec une pasta box tiède. C'est hyper agaçant. J'ai passé le week-end à lui chercher un défaut. J'ai pas trouvé. Même pas un ongle incarné, quoi. Rien. Le mec est parfait. S'il y a un truc. Son saxophone l'attend là-haut et ça fait 4 ans qu'il en a pas joué. Je plains ses colocs spatiaux. Pesquet, arrête avec ton saxo, bordel ! Va faire les selfies, mais arrête avec ça ! Allez, bonne chance et bonne mission à Thomas Pesquet. Et surtout qu'il en profite bien, parce qu'à son retour dans 6 mois, quand il verra qu'on sera encore en couvre-feu confinement à cause des variants ouzbek et basque, fera moins le malin, Buzz l'éclair.
C'était George Michael au saxophone ?
Enfin, oui.
Il a laissé son saxo là-haut ?
Ouais.
Ah, je savais pas.
Et il a pas répété depuis 4 ans.
Eh ben écoutez, ça va lui donner un peu de temps pour s'entraîner là-haut.
Je crois.
Ouais. La touchable, c'est tous les matins à 7h40 sur Europe 1. Merci Bertrand. À demain, à tout à l'heure, 10h avec Philippe Vandel dans Culture Média, Philippe Vandel et toute son équipe. 7h43.
Europe Matin, le 7-9.
L'épidémie est mondialisée et si la solution passe par le vaccin, est-ce que ça a un sens d'être tous vaccinés dans les pays riches et de laisser le virus circuler chez les autres? Inégalité grotesque, dit l'OMS. Comment rendre accessibles les vaccins aux pays les plus pauvres? Peut-être avec le dispositif COVAX, initiative de solidarité internationale. Mon invité ce matin, et c'est sa première prise de parole à la radio depuis sa nomination, c'est la coprésidente de COVAX, l'eurodéputée Chrysoula Zakharopoulou.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Chrysoula Zakharopoulou, bonjour.
Bonjour à vous.
Et merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi Europe 1 pour cette première prise de parole. COVAX a pour mission d'assurer la redistribution de doses vers les pays les plus pauvres. Il y a bien sûr un enjeu de solidarité, mais aussi l'idée de nous protéger nous-mêmes de la circulation du virus.
Exactement. Un peu d'historique, parce que je pense que ça fait du bien. Dès le début de la pandémie, un mois plus tard, le mois d'avril 2020, sous l'initiative, sous l'impulsion du président de la République française et de l'Union européenne, nous avons mis en place ce mécanisme comme une réponse à la pandémie qui s'appelle ACTA. Les COVAX, c'est pratiquement les piliers vaccination. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de vacciner 20% de la population globale. Et l'objectif, vraiment, c'est de garantir un accès équitable aux vaccins dans tous les pays du monde.
Parce qu'aujourd'hui, je le précise, hein, 16% de la population concentre plus de la moitié des doses injectées dans le monde. Vous vous dites, l'objectif, c'est 20% de la population des pays concernés. C'est ce que vous me dites ce matin.
20%, oui. Oui.
Est-ce que ça suffit? On sait que les problématiques d'immunité collective sont vers 70-80% de vaccination. Ça a l'air cynique comme question comme ça, mais à quoi ça sert de vacciner 20% de la population d'un pays?
Et je ne suis pas d'accord avec vous, parce que l'objectif, c'était au début 20%, mais bien sûr, ça ne suffit pas, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut continuer à mobiliser les moyens financiers pour donner la possibilité au mécanisme COVAX de faire vacciner la population. Et n'oubliez pas que tous les continents cherchent aussi de faire le meilleur pour eux-mêmes, d'y mettre aussi en place des mécanismes. Mais aujourd'hui, vous avez dit quelque chose. 16% de globe à tous les vaccins. Alors, si on n'avait pas eu ce mécanisme COVAX, comment on pourrait sortir de cette crise?
Alors, j'ai posé peut-être la question à l'envers en vous demandant si ce serait utile. D'abord, est-ce que c'est possible? Parce qu'en fait, on a une véritable tension sur l'approvisionnement en vaccins. On l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui de redistribuer, nous les pays riches, de redistribuer des vaccins aux pays les plus pauvres?
Oui, bien sûr que nous avons. Et je pense, comme vous avez dit ici, nous voulons sortir de cette pandémie. Nous allons sortir tous ensemble. Ici, il n'y a pas la place pour un nationalisme, un égoïsme vaccinal. Mais
je le rappelle, parce que je ne l'ai pas précisé, vous êtes eurodéputé Renaissance aussi, Chrysoula Zakharopoulou. Vous parlez d'un nationalisme vaccinal, c'est ce à quoi on a assisté. Vous visez qui? La Chine, la Russie, l'Angleterre?
Non, il faut nous aussi, nous les Européennes, que nous commençons à comprendre que si nous voulons reprendre notre vie comme avant, nous ne pouvons faire seulement si nous, les Européens, nous sommes vaccinés. L'Europe forteresse n'a aucun sens. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que tous les citoyens comprennent que la vaccination aux pays du Sud, ce n'est pas seulement une question de solidarité, ce n'est pas une question de multilatéralisme, ce n'est pas parce que nous sommes gentils, mais c'est une question de sécurité pour tous.
Vous avez dit que la position britannique et américaine est égoïste et inacceptable.
Oui, moi, je suis tout à fait d'accord et je partage bien sûr l'idée du président de la République française quand il dit que les pays riches, il faut commencer à partager les doses, mais pas une fois que les populations sont vaccinées.
En même temps.
En même temps, parce que vous avez dit ce matin, j'ai écouté, qu'il y a des variants qui sont entrants. Regardez ce qu'il passe aujourd'hui en Brésil, on a l'Afrique du Sud. Alors, le moment que nous, les pays riches, nous pensons à nous-mêmes, les variants, il y a le développement des variantes, et alors, on ne va pas sortir.
Mais l'exemple brésilien est typique, circulation active du virus, développement de nouveaux variants. C'est pour ça que je vous demandais si 20% ça servait vraiment à quelque chose du côté de COVAX. Comment on regarde ça? Je voyais cette analogie, on dirait qu'on a les moyens que pour une couche de peinture. Quand ça sèche, on va voir à travers finalement. Les variants vont continuer à circuler.
Non, parce qu'en même temps, C'était comme je vous disais au début, on a mis cet objectif de 20%, mais aujourd'hui on sait qu'il faut 60-70%. Et alors, n'oubliez pas, je fais un exemple, l'Union européenne, elle a prêt à céder 4 fois plus par rapport à sa population. Vous voyez, tout ça, il va être partagé.
C'est un appel à la générosité des pays riches, hein, très clairement, et c'est ce qu'il faut comprendre ce matin. Une petite question technique, quel vaccin est-ce qu'on distribue ?
Alors, les mécanismes COVAX, il avait pré-accepté, la plupart des vaccins sont des AstraZeneca. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un problème, parce qu'avec la flambée de la pandémie en Inde, qu'il est à travers l'Institut, Serum Institute, qu'il était celui responsable pour distribuer au continent africain, on se trouve en impasse. Alors, on continue à avoir des AstraZeneca, il faut qu'on diversifie aussi les vaccins au mécanisme COVAX.
D'anciens chefs d'État, dont François Hollande, des prix Nobel du monde entier, appellent depuis vendredi à une levée des brevets. L'Afrique du Sud et l'Inde le demandent. Washington y réfléchirait. Est-ce qu'il faut lever les brevets sur les vaccins pour permettre une production active massive ?
Je lis et je trouve, bien sûr, légitime. La levée temporaire des droits des propriétés intellectuelles. La question, c'est est-ce que c'est ça la solution ? Ça, c'est, malheureusement, non. Parce que vous savez, pour construire une usine, ça prend 4 à 5 ans. Pour transformer une usine, ça prend 12 à 24 mois.
Oui, mais Madame Zakharopoulou, il y a des unités de production qui ne tournent pas pour produire du vaccin dans le monde. Lever les brevets, est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez ?
Moi, personnellement, je vous dis, je partage la vision de Mme Ngozi, la nouvelle directrice générale de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce.
Parce que, je le précise, c'est l'OMC qui pourrait agir sur ce levier-là.
Exactement. Et comme Mme Ngozi, elle connaît bien, parce qu'elle était au mécanisme COVAX, moi, je partage son idée que les laboratoires, il faut qu'ils trouvent des partenaires fiables qui existent, comme par exemple au Sénégal, l'Institut Pasteur, et partager leur savoir-faire et transférer des technologies. Et c'est sur ça qu'on va travailler.
Ça coûte combien aujourd'hui ce dispositif COVAX ? L'Union européenne, pour parler que de nous, on dépense combien, pour ne pas parler de doses de vaccins, mais d'argent. On dépense combien pour partager avec les pays les plus pauvres ?
Combien d'argent on a mis ?
Combien d'argent, oui. C'est quel budget ?
On est les premières contributeurs. On a mis 2,3 milliards d'euros. Et c'est bien qu'on les dise, parce que, si vous voulez, on a mis aussi 100 millions pour effectuer les campagnes en Afrique. Et je pense que vous avez parlé de la Chine.
Oui, la Chine et la Russie ont choisi de ne pas passer par COVAX, mais d'envoyer directement leur dose à d'autres pays.
Oui. Mais ça ne se fait pas comme ça, une stratégie vaccinale. Il y a l'OMS qui pilote.
Qui ne s'est pas montré infaillible, l'OMS, hein, depuis un an de pandémie. Hein.
Non, mais...
Vous dites aux Chinois et aux Russes, pardonnez-moi, vous dites à Pékin et à Moscou qu'ils ont tort de faire ce qu'ils font là ?
Non, je ne dis pas ça. J'ai dit, M. Béliard, que vous savez, tous les médias et tous les journalistes, vous parlez de ce qu'ils font la Chine, mais par contre, on ne parle jamais de ce qu'il fait l'Union européenne. Alors moi, je suis ici pour vous dire que quand on organise une stratégie de vaccination, quand on est les premiers contributeurs, quand on passe aux autres, quand on a comme objectif de faire sortir de cette crise, alors oui, je suis fier et il faut que tous les Européens soient fiers de ces mécanismes COVAX.
Merci beaucoup, je rallume mon micro, pardonnez-moi. Merci beaucoup, Chrysoula Zakharopoulou. Franco-grec, eurodéputé, on l'a entendu à votre accent, mais c'était très clair ce dispositif COVAX. On va voir ce qu'il en est dans le temps et on va suivre l'avancée des travaux et la redistribution justement de ces vaccins vers les pays les plus pauvres. Merci beaucoup, 7h53.
Merci.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'édito politique Catherine Ney dans quelques toutes petites secondes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h55 sur Europe 1. L'édito politique avec Catherine Ney. Bonjour Catherine.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Double page dans le Figaro, le président y parle de sécurité, thème favori de la droite. Faire reculer la délinquance partout, dit-il, et d'abord lutter contre les trafics de stupéfiants.
Oui, là, c'est la mère des batailles, dit-il, et c'est clair qu'il veut faire un gros coup politique et en ciblant la drogue, la matrice de la violence dans notre pays, qui énerve certains réseaux séparatistes, dont le terrorisme, mais aussi les quartiers les plus pauvres dans les petites villes, y compris celles qui étaient jusqu'ici épargnées, qui affectent les gens les plus modestes. Les cambriolages sont souvent des drogués qui veulent payer leur dose. Et la progression des agressions contre les forces de l'ordre, dont tout le monde déplore tous les jours, par exemple les voitures brûlées, les tirs de mortier contre les commissariats, les gendarmeries à Épinal ou à Marseille récemment, eh bien c'est toujours parce qu'un point de deal a été démantelé.
Dire c'est bien, mais faire c'est mieux.
Bon, on peut dire qu'on a fait. Il y a eu création de l'Office anti-stupéfiant en janvier 2020 pour coordonner la lutte anti-drogue qui a permis de dresser une cartographie de 4000 points de deal en décembre. Et puis depuis, il y a eu 1300 opérations. Plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées. Fermer un point de deal, dit-il, ça change la vie des gens. Bon, mais est-ce une fermeture définitive, ça, et on verra, ça, il ne le dit pas.
On s'attaque à l'offre et aussi à la demande.
Et comment ? Vous êtes arrêté avec seulement 2 grammes de cannabis, 200 euros d'amende, qui passe à 450 si elle n'est pas réglée dans les temps, et pire, inscription automatique au casier judiciaire. Vous voyez, ça rigole pas. Et ça, dans les banlieues comme dans les beaux quartiers, l'expérience a commencé en juin, dans une demi-douzaine de villes, et maintenant elle est généralisée sur tout le territoire. Il y a eu 70 000 amendes depuis à ce jour, vous voyez.
Avec cette interview, Emmanuel Macron est-il entré en campagne, Catherine ?
Oui, d'abord, il va y avoir une grande campagne de gouvernement qui avait lancé le débat. La dernière, c'était en 86, avec le film de Jean-Marie Perrier. Vous vous souvenez, la drogue, c'est de la merde. Et à l'époque, ça n'avait pas plu à tout le monde. Donc là, nouvelle campagne. Alors, lui assure qu'il n'a pas d'agenda politique. Bon, écoutez, on n'est pas obligé de le croire. Mais moi, je vois deux choses. D'abord, qu'il rend hommage à tous ses ministres de l'Intérieur, Collomb, Castaner, Darmanin, preuve qu'il veut réunir la famille. Et puis, il prévient, quoi qu'il arrive, je présiderai jusqu'au dernier quart d'heure. Ce qui veut dire qu'il n'annoncera pas 6 mois avant comme François Hollande, qu'il ne se représentera pas. Pour moi, c'est la preuve en creux qu'il sera bien candidat.
Et on est à un an de la présidentielle, hein. Rappelons-le. Merci Catherine Ney, l'édito politique. Il est 7h58. Vous restez bien sur Europe 1 dans un instant, la météo et le journal de 8h. À tout de suite. 7h59 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Une France calme, nous avons quelques brouillards sur la Somme, sur le département de la Somme, la Haute-Saône et les Vosges. Mais dans l'ensemble, c'est un temps calme qui ne restera pas totalement, puisque sur le massif alpin, nous aurons quand même des averses, des giboulées, des chutes de neige dans le courant de la journée, mais vraiment que le massif alpin. Et puis, les orages vont éclater probablement sur la Corse. D'ailleurs, nous avons des coups de foudre en ce moment, le coup de foudre avec la Corse, mais aussi à Bastia. Alors, en ce qui concerne les températures maximales, elles vont s'échelonner entre 15 et 20 degrés. Si je ne parle pas des autres régions, c'est tout simplement parce que le temps sera clément. Il sera un peu plus nuageux près des frontières du nord et du nord-est, mais partout il sera clément, notamment sur la région parisienne où tout s'annonce bien pour cette journée. Demain, nous aurons un peu plus de nuages. Ils seront très présents sur la plupart des régions, mais surtout près de l'Atlantique, le sud-ouest et le massif central. Mercredi, ils passeront à l'est ces nuages et nous allons vivre comme ça un début de semaine dans l'ensemble fort agréable. Il ne faut pas se plaindre.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.